France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
États-Unis, Mexique, une frontière dans tous les États, Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, Texas, et pourquoi pas Louisiane, Mississippi, Alabama et Floride. Comment la frontière sud des États-Unis s'est-elle peu à peu formée? Comment le Mexique en est-il arrivé à perdre la moitié de son territoire? Et quelle place pour les populations autochtones dans cette histoire où nous croisons Davy Crockett, Napoléon, Geronimo, le président Monroe et John Wayne?
Au départ, au XVIIe siècle, l'Ouest, c'est les Appalaches.
Napoléon, premier empereur des Français, a vendu à la jeune République américaine tout l'immense territoire de la Louisiane.
Crockett, vos élucubrations philosophiques, votre sagesse d'homme des bois ne m'intéresse pas loin du monde.
Vraiment, à partir de 1820, là, les choses commencent à devenir sérieuses et à s'accélérer très très rapidement.
On a fait quelque chose de ce territoire! Avant nous, il n'y avait rien ici! Et il n'y aurait jamais rien eu si on vous l'avait laissé!
Cette terre n'est pas pour les tiens. Si tu ne t'en vas pas, je reviendrai te tuer.
Le cours de l'histoire.
Une histoire qui mobilise tant et tant de représentations issues du cinéma, des westerns. Bonjour Augustin Abrant.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis à l'Université d'Orléans. Quand nous parlons des États-Unis, du Mexique, avec l'évocation d'une frontière, il faut sans doute définir ce que signifie ce mot frontière, parce que le sens que nous lui donnons, un trait fin sur une carte, n'est sans doute pas le sens que l'on peut appliquer dans l'histoire par le passé. C'est autre chose, la frontière aux États-Unis.
Oui, exactement. C'est autre chose dans le sens où il y a une dimension idéologique fondamentale qui se construit au XIXe siècle. La frontière, en réalité, en anglais, il y a deux termes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a border, qui est vraiment la frontière technique, on veut dire, entre deux États. Et la notion de frontière, frontier, qui apparaît très vite au XIXe siècle, c'est cet espace, finalement, à la fois géographique, mais aussi idéologique en réalité, l'espace où se rencontrent la civilisation, entre guillemets, et la sauvagerie, des autochtones en particulier. C'est l'espace, finalement, que va conquérir l'espace colonial des États-Unis. Jusqu'au Pacifique, en réalité, jusqu'à la fin du 19e siècle. En tout cas, c'est toute l'idéologie du récit national qui s'articule autour de cette frontière, et on y reviendra sans doute, mais c'est évidemment une notion qui a été remise en question par l'historiographie, évidemment, puisqu'elle a... Elle est empreinte de colonialisme et d'un récit national qui se veut exceptionnaliste aux États-Unis.
Oui, parce que cette frontière au sens de border, c'est une ligne un peu comme nous l'entendons aujourd'hui, mais la frontière au sens d'espace qui regarde vers l'ailleurs, sans savoir trop ce qu'il est d'ailleurs, mais sans doute un peu sauvage dans la représentation, c'est une frontière mouvante, celle-là, elle doit se déplacer.
Exactement. Alors, le terme a été théorisé ensuite par Turner à la fin du 19e siècle, dans un article qui a fait date, hein, qui était de Significance of the Frontier, qui montre que il part du constat que la frontière, donc cet espace où se rencontrent civilisation et sauvagerie, et où en réalité les pionniers vont dompter la sauvagerie par leur travail, par la résilience. Et Turner explique que c'est à cet endroit précis que se forme le caractère américain. Là où les institutions se renouvellent, où le génie américain s'exprime le plus, il part du constat à la fin du 19e siècle que cette frontière est close. Que les États-Unis ont atteint le Pacifique et que de fait, il n'y a plus de terre à s'approprier en réalité. Et donc cette notion de frontière, elle est au cœur de l'expérience américaine, puisque c'est ce qui illustre d'une certaine manière l'avancée inexorable des pionniers vers le Pacifique, et ce qui montre surtout, encore une fois d'après le récit national, l'exceptionnalisme états-unien, dans la mesure où il permet aux institutions états-uniennes, en particulier la démocratie, la civilisation, la lumière de la technique, de s'avancer jusqu'au Pacifique, aux dépens bien entendu des populations autochtones, dont on considère qu'elles sont sauvage, d'une part. D'ailleurs, cet espace, hein, depuis le début, hein, depuis la Révolution américaine, en réalité, l'espace de l'Ouest est considéré comme une terra nullius, c'est-à-dire un endroit vide, qu'on va appeler ensuite the wilderness, cette espèce d'endroit sauvage, qu'il va s'agir encore une fois de dompter. Mais cet espace, effectivement, est considéré comme une forme de réceptacle à la civilisation américaine qui doit avancer dans un mouvement, d'une part, provisoire, providentiel, c'est très important, et d'autre part, naturel, c'est-à-dire que c'est inévitable d'une certaine manière, c'est inexorable, et l'État états-unien se doit d'accompagner les pionniers dans cette dynamique providentielle.
Frederick Jackson Turner, donc cet historien, oui, des États-Unis qui écrit, on va dire, toute fin du 19e et surtout début du 20e siècle, a cette vision, et on sait bien comment la construction de l'image de la conquête de l'Ouest a une influence considérable dans ce récit. Mais la conquête de l'Ouest, je l'entends bien, Augustin Abrant, qu'en est-il du Sud ? Car cette fois-ci, nous ne sommes pas avec des terres aussi sauvages que ça, au sens où, en Floride, en Louisiane, et puis au Mexique, il y a des gens, des populations, même des institutions et d'autres États qui revendiquent ces territoires-là. Si on se place, allez, on va dire au XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, quelles sont les forces en présence ? Qui est au Mexique et en Louisiane ? C'est nous, les Français,
hein ? Oui.
Ça va, on y est encore.
On y est encore à ce moment-là. On y est, en fait, en réalité, jusqu'en 1803. Hein. Le tournant majeur, ça va être évidemment l'achat de la Louisiane en 1803. Mais avant ça, il faut bien imaginer que avant les États-Unis, l'Amérique du Nord, c'est avant tout la compétition entre des empires coloniaux. Oui, évidemment, une présence autochtone qui reste en situation de domination assez longtemps. Encore une fois, hein, il faut déconstruire le récit national et il y a une forte résistance autochtone d'une part. Mais effectivement, il y a l'Empire britannique, l'Empire français et l'Empire espagnol. Et les régions du Sud, elles sont effectivement occupées par l'Espagne, en tout cas, effectivement, jusqu'au début du 19e siècle. Là, les choses vont s'accélérer pour les États-Unis. Effectivement, le tournant, c'est l'achat de la Louisiane en 1803, quand Napoléon va vendre la Louisiane pour environ 15 millions de dollars à Jefferson, le président Jefferson à l'époque. Et ce qui va littéralement doubler, en réalité, l'espace possédés par les États-Unis, alors qu'ils sont encore évidemment occupés par les populations autochtones, mais ça double littéralement la surface du domaine public américain dans les traités. Ce qui fait que ça va amener une impulsion majeure en réalité pour l'État colonial états-unien et puis pour les pionniers, et ce qui va accélérer aussi dans le même temps, et c'est important qu'on en parle quand on parle du Sud en fait, parce que ça va accélérer la politique amérindienne aussi. C'est-à-dire que le Sud, à l'époque, c'est un sud esclavagiste, hein, bien sûr, dans les États, d'abord les États de la côte atlantique, hein, la Géorgie, la Virginie. Et puis, peu à peu, on va vouloir mettre à l'écart les populations autochtones de ces régions, en particulier les populations autochtones du sud-est des États-Unis, les Cherokees, les Choctaw, les Chickasaw, par exemple. Et l'objectif, dans les années 1820, va être de passer d'une politique d'assimilation des populations autochtones dans le giron de la civilisation à une politique de déportation. La déportation qui va avoir lieu sous la présidence de Jackson, hein, en 1830 avec le Indian Removal Act. Et cette déportation des populations autochtones, elle va, entre guillemets, libérer la région du Sud et va permettre la création de nouveaux États. En fait, très rapidement. Déjà, dans la suite de la guerre de 1812, des premières cessions de terres ont été imposées à ces populations avant qu'on les déporte, ce qui a permis, par exemple, la création de l'État de l'Alabama en 1819, du Mississippi en 1817, qui sont, et c'est très important, des États qui reposent sur l'institution particulière, donc sur l'esclavage. C'est un Sud esclavagiste sur un système de plantation qu'on appelle le Deep South, le Sud profond, en fait, qui va amener rapidement, dans un objectif évidemment économiquement esclavagiste à cette époque, les États-Unis à imposer leur présence dans le Sud et notamment peu à peu à négocier le traité notamment de Adams-Onis en 1819, Et puis ensuite, Jackson, on y reviendra sans doute, va envahir, sans l'accord du Congrès d'ailleurs, la Floride espagnole. Oui, ce qui va être une première incursion, si vous voulez, dans les territoires qui appartiennent de facto à un autre empire colonial.
Le traité Adams-Onis en 1819, c'est l'achat de la Floride, avec ici ces différents états du sud des États-Unis. Donc la Floride, je l'entends bien, je vais de l'est à l'ouest. Hein. La Floride, donc, c'est acheté, c'est une chose.
Alors, c'est acheté, excusez-moi, je vous interromps, c'est acheté, c'est envahi en réalité par Jackson lui-même.
Il y a le prétexte de l'achat.
Il y a en réalité l'achat de la Floride occidentale. Qui se fait des suites de l'achat de la Louisiane, puisque c'est un territoire revendiqué par les Américains. Oui. La Floride occidentale, c'est un territoire très précis qui correspond à l'état de Louisiane aujourd'hui, qui est créé finalement en 1812. Et là, autour de 1810, il y a des pionniers qui s'y installent, et il y a une courte république d'ailleurs qui existe, une république américaine qui dure 34 jours, avant que le président Madison, à l'époque, l'annexe en réalité. La Floride, ce qu'on appelle la Floride aujourd'hui, qui est espagnole, elle est envahie à la suite de la guerre de 1812, en 1818-1819, par Andrew Jackson, qui à l'époque est un général, en réalité, de la guerre de 1812, et qui va mener une campagne, notamment la guerre séminole, contre des populations autochtones, à l'époque, qui considèrent comme rebelles, avec un projet de sécurisation de la frontière, justement. Puisque dans ces espaces, on reproche aussi à l'Espagne de laisser finalement s'installer les esclaves qui se sont échappés des plantations du Sud. Donc il va, si vous voulez, récupérer les esclaves, il va se battre contre les populations autochtones et c'est intéressant parce que c'est un argument qui revient beaucoup aujourd'hui, va estimer que bon, l'Espagne ne sait pas tenir sa colonie, que ça représente un risque sécuritaire majeur pour les États du Sud notamment. Il va y aller, et il va imposer la loi martiale. Il écrit souvent à Monroe, en lui disant, enfin James Monroe, le président, en lui disant voilà, il est important que l'on attaque la bête dans sa caverne. Il n'a pas de réponse officielle et donc il prend la décision lui-même d'imposer la loi martiale en Floride et donc d'envahir la Floride d'une certaine manière au nom des États-Unis, ce qui va poser d'ailleurs beaucoup de tensions au sein du Congrès. Parce que c'est objectivement anticonstitutionnel en réalité. Tout ça dans un contexte où John Quincy Adams et Louise de Onis sont en train de négocier précisément le traité transcontinental de 1819. Donc c'est une sorte de coup de force qui est imposé, qui va accélérer les choses. Et en réalité, l'Espagne va se rendre compte que, effectivement, elle n'est pas en mesure de protéger sa colonie, en tout cas en Floride, et va négocier. Et c'est là qu'on en arrive effectivement à quelque chose d'avantage financier, mais va négocier la vente de son territoire.
D'accord, je comprends bien que dire simplement une vente, ça cache, ça dissimule cette histoire qui est une annexion. En réalité, nous nous trouvons là du côté est des États-Unis, au sud de ces 13 colonies qui se sont proclamées indépendantes et qui commencent à envisager de partir de plus en plus à l'ouest. Mais que se passe-t-il pendant ce temps-là à l'autre bout, en Californie?
Don Montero, pour l'amour de Dieu, pourquoi êtes-vous encore ici?
Allons, Don Luis, calme.
Santa Ana approche, il est à 3 miles de la cité. Vous devez partir dès maintenant.
Le gouvernement espagnol tient à vous remercier de vos loyaux services.
Cette terre est propriété du gouvernement espagnol.
Et d'ici 2 heures, cette terre sera propriété du gouvernement mexicain, à moins que je ne vous la remette. Je sais bien quel homme est Santa Anna. Quand il verra que les seigneurs se montrent bons contribuables, il respectera tous vos biens. Le reste de la Haute-Californie, je l'ai également réparti entre les autres seigneurs, et je compte sur vous pour veiller à ce qu'ils reçoivent tous ce qui leur revient.
Le Masque de Zorro, le film de Martin Campbell en 1998 avec Antonio Banderas. Bonjour Emmanuel Pérez-Tisserand.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en histoire à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine, de Zorro à la ruée vers l'or. Ça, c'est votre ouvrage aux presses universitaires de Rennes. Nous sommes ici au tout début des années 1820. Oh, ben, les États-Unis d'Amérique, disons-le, géographiquement, sont loin à ce moment-là. C'est de l'autre côté. Que se passe-t-il en Californie à ce moment-là? Que se passe-t-il au Mexique aussi?
Oui, bah, on vient de parler du traité de Adams-Onis. En fait, il a lieu, les négociations ont lieu alors que ça fait presque une décennie que les colonies espagnoles en Amérique, et donc plutôt Amérique centrale et Amérique du Sud, sont en révolte, connaissent ce qu'on a appelé les guerres d'indépendance. Et effectivement, le Mexique a déclaré son indépendance depuis 1810, mais a vraiment, ce qu'on appelle en espagnol, consommé son indépendance en septembre 1821. Et donc effectivement, ces territoires de l'Amérique du Nord espagnole qui remontent assez loin sur au nord dans ce qui est aujourd'hui le territoire des États-Unis, à ce moment-là sont plutôt à distance de cette guerre d'indépendance du Mexique qui dure depuis 10 ans. Ils sont touchés notamment parce qu'ils sont plus approvisionnés par le centre de la colonie, mais en fait vont basculer, et c'est ce que je raconte notamment dans mon livre, vont basculer côté mexicain une fois que le Mexique déclare son indépendance. Donc ces territoires du Texas, du Nouveau-Mexique et de la Haute-Californie, qui est beaucoup plus large que la Californie états-unienne actuelle, vont devenir mexicaines en 1821.
Avec Emmanuel Pérez Tisserand, l'impossibilité d'imaginer à ce moment-là, nous sommes en 1821, qu'un jour la Californie puisse devenir un État des États-Unis. Faut bien se remettre tout cela en tête. C'est géographiquement très loin. Politiquement, nous sommes dans un autre univers. Nous sommes une colonie ici liée à l'Espagne. Et puis, il y a cette indépendance du Mexique. Mais l'idée que les États-Unis peuvent aller jusqu'au Pacifique et former ce grand État, c'est une construction, c'est un processus.
Alors oui, alors certains y pensent déjà en réalité, et d'ailleurs un peu avant, il y a eu l'achat de la Louisiane à la France, donc vous en avez un peu parlé hier dans l'émission, et cette grande Louisiane française, en réalité, on peut la projeter jusqu'au Pacifique, mais vraiment au nord. Et effectivement, là, on est dans cette partie qui est la Haute-Californie, dans un territoire qui a été colonisé récemment par les Espagnols. À partir de 1769, San Francisco, par exemple, est fondé sous la forme d'une mission d'évangélisation et d'un fort militaire en 1776, presque exactement au moment de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc c'est une colonisation relativement récente, qui avec une présence coloniale pas très forte. Mais en fait, l'ennemi, enfin si vous voulez, si on imagine une menace directe à ce territoire au début du 19e siècle ou à la fin du 18e, c'est plutôt les Russes, puisque en fait des entrepreneurs russes et une présence russe était là. Donc on peut penser à l'Alaska, mais en fait ils descendaient un peu plus au sud, et les autorités espagnoles, la monarchie espagnole, étaient très inquiètes d'une présence russe, d'une incursion russe. Et bon, aussi, si on veut expliquer la présence des Espagnols et cette fondation tardive, il y a donc la présence des Russes et aussi une présence accrue des puissances européennes dans le Pacifique. Et puis ensuite, après 1776, surtout après 1783, des États-Unis. Et donc, il devient important d'occuper ce territoire. Mais c'est vrai que la menace, on parle un peu des États-Unis dans les sources gouvernementales du Mexique au moment de l'indépendance. Et une inquiétude sur le fait que la Haute-Californie ait bien déclaré l'indépendance et soit bien rattachée au Mexique. Et on craint en premier les Russes, et ensuite on parle effectivement des Britanniques et des États-Unis déjà, puisqu'il y avait une présence de commerçants, de baleiniers états-uniens dès cette époque-là.
Alors ça, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant, de se dire qu'en Californie, au 19e siècle, en tout cas dans ce premier 19e siècle, et même un peu avant, la crainte, c'était l'arrivée des Russes qui venaient de l'Alaska et qui allaient descendre, c'est ça, Emmanuel Pérez Tisserand, que
pourquoi
pas.
Oui, ils avaient même fondé, il y a un fort russe, qu'on appelle donc Fort Ross, au nord de San Francisco, et qui est resté un établissement russe jusqu'en 1841.
Ah ben voilà, donc les Russes étaient là, avec ici Augustin Abran, l'importance accordée aux populations autochtones qui résistent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que bien souvent, cette histoire-là de l'expansion des États-Unis et puis de ses relations avec le Mexique laisse de côté, à part quelques figures, toutes ces populations. Il y a des résistances qui sont bien présentes face à l'expansion états-unienne.
Oui, évidemment, et c'est en ça que je parlais de l'importance de reconsidérer le récit national. C'est ce que l'historiographie s'est attachée à faire, d'ailleurs, depuis quelques décennies maintenant. Il y a évidemment cette notion de frontière et d'expansion qui paraît inexorable. L'historiographie a bien montré qu'il existe évidemment des résistances très très fortes des populations autochtones, quelles qu'elles soient, d'ailleurs, sur l'intégralité du continent, et surtout que alors c'est vrai, quand on regarde et j'invite tous les auditeurs et les auditrices à le faire, quand on regarde une carte de l'expansion des États-Unis en l'espace de 60 ans, effectivement, on part des premières colonies de la côte atlantique et on arrive jusqu'au Pacifique. Donc ça, c'est impressionnant, en l'espace de, voilà, un peu plus de 50 ans, quoi. Mais en réalité, cette histoire, elle est loin d'être évidente pour les États-Unis. Il y a des espaces de résistance, il y a en fait une nécessaire prise en considération de ce que certains historiens et historiennes ont considéré comme une perspective face à l'Est, en réalité, de l'expansion, qui montre bien que, très souvent, les colons, les pionniers et l'État fédéral et les États fédérés sont en situation de négociation, d'adaptation avec les populations autochtones qui sont d'une part présentes, donc par leur simple présence, ça demande une adaptation de l'État colonial, et puis qui vont résister, qui vont être résilientes et qui vont en fait développer des formes d'agentivité, souvent évidemment antagonistes à leur propre déplacement ou extermination ou remise en cause de leur souveraineté et de leur autodétermination, quoi qu'il en soit, et qu'il y a de nombreux espaces très longtemps qui ne sont pas à la main des États-Unis et qui dans lesquels la résistance est encore majeure, et surtout que les États-Unis ne se sont pas encore appropriés techniquement. Il y a une forme de fragilité dans certains espaces. Justement, on a reconsidéré ce fameux espace vide de la wilderness comme un ouest autochtone, mais davantage aussi comme un espace dans lequel s'expriment les agentivités. Il y a un certain nombre de termes qui ont été mis en place par les historiens, les historiennes, comme le native ground, par exemple, hein, par Kathleen Duval, qui montre que il y a des espaces très longtemps qui reste sous la domination de dynamiques culturelles, économiques, politiques, diplomatiques amérindiennes, et que la malgré l'idéologie dominante d'expansionnisme conquérant et encore une fois évidente et naturelle, sur le terrain, les résistances amérindiennes sont très puissantes et sont prises en considération par les colons.
Agentivité, bien sûr, ça vient de l'anglais agency, mais on peut pas vous le reprocher, hein, Augustin Abrant, étant donné que vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation des États-Unis et qu'il faut prendre ces concepts. Ça veut dire simplement la capacité des individus à agir, oui. Ne pas être simplement passif. Hein,
exactement, c'est un outil qui s'est développé. Voilà, issu de l'histoire sociale dans les années 60, et puis qui a visé à dépasser, si vous voulez, le stade victimaire uniquement, de victime passive de populations minorisées, et notamment les populations autochtones colonisées qui subissent des tentatives de génocide à travers le continent, pour montrer leur capacité d'initiative, et que ça peut être la résistance, mais aussi la résilience, la survivance, l'adaptation, la réinvention de leur propre forme de souveraineté. Il y a tout un panel de possibilités. Et ce qui est important, c'est que l'historiographie des études amérindiennes aujourd'hui met bien en avant la volonté de ne pas uniquement considérer les populations autochtones comme agissant en réaction à une force coloniale, mais qu'il y a bien des procédés d'agentivité proactifs, qu'il y a une volonté de se réinventer et d'avoir un impact en réalité, et c'est ce qui se passe, d'avoir un impact sur la manière dont se structure l'idéologie et la puissance politique et territoriale des États-Unis aussi. C'est-à-dire que si on considère, voilà, c'est une image que j'utilise souvent, si on considère la manière dont s'organisent, par exemple, les États fédérés politiquement, ou la manière dont l'armée américaine se développe, c'est bien parce qu'il y a une présence autochtone qui implique une certaine façon de penser et de s'organiser de manière à pouvoir les dominer. Donc c'est ça l'agentivité, c'est prendre en considération non pas une vision linéaire, binaire et monolithique, si vous voulez, d'une expansion vers l'Ouest, mais simplement considérer qu'il existe finalement des espaces de pouvoir dirigés par des voilà par des groupes humains mis en présence de facto par le fait colonial qui sont en réalité souvent à l'origine d'agentivités antagonistes, mais qui font ce qu'elles peuvent en réalité aussi pour pouvoir survivre et se réinventer systématiquement dans les interstices laissés par les frontières imposées par les empires coloniaux.
Et puis dans cette idée de frontière, il y a aussi un piège, c'est le piège que nous nous tendons à nous-mêmes au moment de nous représenter la carte des États-Unis et la frontière avec le Mexique. Elle nous paraît évidente tellement nous l'avons vue, cette carte et cette frontière, mais Emmanuel Pérez Tisserand, il faut se représenter une toute autre carte si nous nous mettons, je ne sais pas moi, au milieu des années 1820, au 1830, le Mexique n'a pas du tout la forme que nous lui connaissons. Jusqu'où s'étend le Mexique au nord ?
Et donc oui, absolument, c'est du point de vue, si on prend le point de vue du sud, depuis le Rio Bravo et pas le Rio Grande, puisque le fleuve qui aujourd'hui fait la frontière a un nom différent, on voit une toute autre image et effectivement on a tout le sud-ouest actuel des États-Unis, du Texas jusqu'au nord de la Californie, donc cette grande diagonale fait partie et sous souveraineté du Mexique depuis son indépendance, et c'est l'héritage véritablement du traité dont on a parlé tout à l'heure, Adams-Onis. Et donc à partir de 1821, on a un empire mexicain qui et ensuite une république fédérale qui fait sa construction nationale. C'est-à-dire qu'on a une indépendance, je ne vais pas revenir sur le processus, mais qui est un peu accidentelle, qui est, pour faire simple, une conséquence de l'invasion napoléonienne en Espagne en 1808, qui déclenche toute une série de crises. Et en fait, le Mexique, quand il a déclaré son indépendance, c'est vraiment un processus assez long, et une fois qu'il a déclaré son indépendance, se met à construire sa nation. Et en fait, si on regarde l'histoire de ce territoire, là, on peut pas seulement le voir comme un futur territoire états-unien, il faut le voir aussi comme une partie de l'effort de construction de la nation mexicaine, d'abord sous la forme d'un empire et puis rapidement sous la forme d'une république fédérale, qui prend le nom d'ailleurs d'États-Unis du Mexique, avec des emprunts, des discussions par rapport à la construction nationale états-unienne. Quand on regarde les débats au Congrès constituant de 1823, on voit que les députés mexicains regardent l'expérience états-unienne en se disant, ah oui, voilà comment ils ont fait. Ils regardent justement cette question de la frontière intérieure. Comment est-ce qu'on fait pour peupler, développer économiquement les régions situées à l'ouest, donc l'ouest des États-Unis, et pour le Mexique, c'est donc le nord, et essayent d'emprunter des solutions et de regarder est-ce que ça va fonctionner pour nous, etc. Donc il y a véritablement un observatoire, un laboratoire américain sur la manière de construire des nouvelles nations indépendantes dans voilà, ce qu'on commence à appeler l'hémisphère occidental. Et en fait, du coup, ce contexte-là, il est aussi un contexte de développement du républicanisme et même du fédéralisme pour un certain nombre des États latino-américains, qui et les États-Unis à ce moment-là sont dans une relation ambiguë. On a vu qu'il y a déjà des convoitises territoriales, on pourra parler du cas du Texas, donc entre le Mexique et les États-Unis, mais il y a aussi cette notion de république sœur, c'est-à-dire de comment est-ce que les États-Unis sont en quelque sorte un exemple et ce qu'on a appelé plus tard la doctrine Monroe, qui est en fait le discours du président Monroe dont on a déjà parlé en 1823, qui est un discours sur l'état de l'Union fait devant le Congrès. Ce discours qui ensuite a été appelé doctrine Monroe dit, bah en fait, au moment où l'Europe sort des guerres napoléoniennes et en pleine restauration, voire n'a pas reconnu les indépendances latino-américaines, nous allons affirmer notre originalité hémisphérique, continentale de l'Amérique, dans laquelle nous, on développe des républiques. Et donc, il n'est pas question que ni les Russes, ni les Espagnols, ni les Britanniques ne viennent recoloniser. Et donc, on a une forme de, sinon solidarité, au moins de parenté entre ces républiques. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que effectivement, il faut, c'est intéressant d'étudier cette construction nationale du côté des États-Unis comme du côté du Mexique, avec certes des grandes différences qui tiennent à leur histoire, à leur la manière dont se sont construites ces sociétés espagnoles et britanniques coloniales, mais aussi en fait des logiques communes, quoi. Donc notamment sur autour de la question du fédéralisme, et Augustin vient un peu de parler de cette négociation État fédéré, État fédéral, les tensions qu'il y a dès ces années-là autour de l'esclavage. On a aussi de telles discussions et tensions au Mexique, et par exemple la Californie, qui donc comme je disais, est un état de colonisation récente qui n'est qu'un c'est un territoire donc qui est sous tutelle du gouvernement mexicain, et progressivement sa population va adhérer au fédéralisme et souhaiter devenir un état de plein exercice. Et c'est ce qui permet d'expliquer ensuite et aussi au Texas les déclarations d'indépendance qu'on trouve auxquelles on assiste en 1836.
Avec une petite couche de complexité supplémentaire, et merci vivement, on n'a pas ici deux blocs qui seraient le Mexique et les États-Unis. Augustin Abron, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun des États, il y a des conceptions différentes de ce qu'est l'État, et si nous nous plaçons du côté du Mexique, dans ces États-Unis du Mexique, ben il y a certains territoires qui veulent être indépendants. Ce n'est pas une union nationale absolue qui s'opposerait à d'autres nations à côté, notamment les États-Unis d'Amérique. Non, il y en a qui veulent être indépendants dans cette histoire.
Oui, et notamment le Texas, évidemment, qui... Alors, peut-être qu'il est important de, il est important de rappeler que le processus fédéral qui est mis en place aux États-Unis au sortir de la Révolution américaine, il s'inscrit déjà dans l'accaparation des terres dans une méthode très 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 logique structurée par Jefferson. Et encore lui, c'est quelqu'un qui revient très souvent d'ailleurs dans cette histoire de l'expansion, puisque c'est lui qui est responsable de l'achat de la Louisiane et puis qui va envoyer effectivement l'expédition de Lewis and Clark en 1806 vers l'Oregon. Et puis c'est lui aussi qui parle d'empire de la liberté. C'est important d'en parler. Hein. C'est quand même lui qui amène la notion, une certaine notion d'un impérialisme américain dès le début du 19e siècle. C'est-à-dire, les États-Unis sont un empire de la liberté voué à amener les avantages des institutions, et notamment de la République et de la démocratie, jusqu'au Pacifique. Mais Jefferson, avant même en fait, la Constitution des États-Unis, quand c'est encore les articles de la Confédération, en 1787, il produit ce qu'on appelle l'ordonnance du Nord-Ouest, qui est tout simplement une méthode qui va rester la même méthode en fait employée tout au long du 19e siècle qui concerne à ce moment-là les États du Nord-Ouest, ce qu'on appelle le Nord-Ouest, c'est-à-dire l'Ohio et puis ce qui va devenir l'Indiana et puis la région des Grands Lacs, où il y a un processus de mise en place d'États fédérés en réalité, c'est-à-dire qu'on va promouvoir et d'ailleurs faciliter l'installation des pionniers par une facilitation de l'accès à la terre en particulier. Il y a toute une série de lois qui sont mises en place pour faciliter l'accès individuel à la terre. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que dans le système états-unien, et ça découle de la colonisation de peuplement britannique, la propriété privée, l'exploitation de la terre, et donc la parcelle de terre comme propriété privée, est un droit naturel qui est protégé. C'est une des raisons de l'émergence des États-Unis, qui est protégé par l'État fédéral. Et donc, cette mise en place, elle va se structurer, on va inciter les colons à s'installer, à s'accaparer les terres, par un système d'ailleurs qui a été défini assez récemment par un historien américain qui s'appelle Michael Whitgen, qui parle d'une économie politique du pillage, pour les populations autochtones évidemment. Le domaine public américain, qui est en réalité des terres indiennes, va être divisé en parcelles. On va inciter les populations à s'y installer, et ça va devenir d'abord des territoires. Et c'est important en fait d'avoir cette notion-là, parce que une terre est transformée d'abord en territoire, et ensuite, une fois que cette terre atteint 50 000 individus, elle est en mesure de constituer une constitution, de former une organisation politique, pour le dire rapidement, peut prétendre à devenir un État et à rejoindre l'Union. Donc il y a une méthode, si vous voulez, d'une certaine manière infinie, qui va se poursuivre et qui va en fait s'imposer dans l'Ouest américain au 19e siècle. Et ce qui va amener des questions, évidemment, comme vous le disiez, des questions d'indépendance potentielle sur ces fameux territoires-là. Parce qu'il faut bien imaginer qu'on parlait là de la perspective du Mexique, mais dans la perspective états-unienne, tous ces territoires de l'Ouest, jusque dans les années 1830, mais c'est l'extérieur des États-Unis. C'est pas un domaine qui appartient aux États-Unis. On pense à toutes les grandes plaines. Bon, il y a effectivement la région de la Louisiane, mais déjà, d'une part, il n'y a pas d'accaparation technique des pionniers, tant que ça. Il y a eu des migrations pour la recherche de fortune, en particulier dans l'Ouest, dans l'Oregon en particulier. mais ce sont des territoires qui sont externes aux États-Unis. Et donc, en réalité, ces populations qui vont s'imposer, qui vont coloniser les terres et développer notamment l'agriculture, vont pouvoir définir leur propre souveraineté d'une certaine manière, ce qui va amener certaines velléités indépendantistes. Et en l'occurrence, le Texas, effectivement, parce que c'est ce qui nous concerne ici avec le Mexique, va qui est une région, donc un État fédéré en réalité de la République fédérée du Mexique, va peu à peu devenir indépendante, enfin déclarer son indépendance dans une révolution, objectivement.
Direction le Texas, 1836.
Croquette, vos élucubrations philosophiques, votre sagesse d'homme des bois ne m'intéresse pas le moins du monde.
Faut pas chercher à m'épater, monsieur. Ce code de l'honneur, je vous disais que moi, il m'ennuie plutôt. Quand il y a de la bagarre dans un coin, j'arrive sans qu'on s'y attende. Et aussi vite que je peux. Et le mieux serait de me dire ce qui se passe.
C'est très simple. Tenez. Ici se trouve Santa Anna, avec 7000 hommes. La rivière Sabine est là. Et quelque part par ici, Sam Houston cherche à former une armée. Et juste entre les deux, c'est Alamo. Or, Santa Anna ne peut avancer en laissant un fort entre ses lignes de communication. Il faut qu'il réduise Alamo en le prenant d'assaut. Et chaque minute gagnée par le fort pour Sam Houston est une autre précieuse minute de la vie du Texas. Et Croquette, nul ne pourra jamais prétendre que William Barrett Travis n'aura pas gagné chaque minute possible.
Bien raisonné. Pourquoi le cacher à Bowie?
Parce qu'un commandant n'a aucune raison d'expliquer chacune de ses décisions.
Vous me l'avez expliqué?
J'ai un grand respect pour vous, Croquette. Mais je n'en ai pas pour cet éventreur d'aventurier.
Et je pensais que n'importe quel gars qui se sert d'un fusil de guerre méritait le respect. Mais je ne suis pas un vrai soldat. Et dans ma vie, je n'ai jamais combattu que des Indiens. Des Anglais aussi, bien sûr.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Alamo, le film de John Wayne en 1960. Emmanuel Perez-Tisserand, que se passe-t-il au Texas en 1836?
Donc là, on est effectivement dans la collision de ces deux trajectoires des États-Unis et du Mexique. Donc, effectivement, on est au Texas au sein d'un État qui s'appelle Coahuila y Texas, au nord de la Fédération mexicaine. Et en fait, c'est un territoire dans lequel, même dès la fin de la période espagnole, les autorités avaient accepté la venue non seulement de colons états-uniens, mais aussi d'entrepreneurs qui allaient apporter avec eux des colons pour développer ce territoire et notamment le protéger des incursions d'une population autochtone qui était les Comanches et qui était perçue comme particulièrement dangereuse, pas encore dominée, etc. Cet effort de colonisation qui avait donc commencé sous les Espagnols et poursuivi au moment de l'indépendance du Mexique. Et donc, on a une population d'origine états-unienne s'installe de plus en plus au Texas et qui est une population particulière parce qu'elle vient en fait de un peu plus à l'est et donc du sud des États-Unis et cette population vient non seulement développer des fermes etc mais aussi vient pour faire planter du coton et vient avec des esclaves. Or, le Mexique essaye d'affirmer une position abolitionniste concernant l'esclavage. Et donc, on a cette dynamique à la fois de population, mais aussi d'options politiques, de choix de développement politique, qui va faire s'affronter des parties de la population texane par rapport au projet national mexicain. Et ça va, disons, pour faire simple, les tensions vont avancer d'un cran quand, en 1835, on a une nouvelle majorité qui émerge au Mexique, avec un bilan plutôt critique et négatif qui est fait du système d'organisation fédérale, avec un effort pour revenir vers un système d'organisation plus centraliste, plus centralisé, avec la transformation des États qui avaient une forme de souveraineté en départements. Cela donne lieu à un certain nombre de révoltes, de révolutions pro-fédéraliste, en faveur du système fédéral, au Texas, en Californie, mais aussi dans d'autres États, comme le Zacatecas ou le Yucatan, par exemple. Donc, en fait, on peut vraiment comprendre cette révolte, à la fois au Texas, et puis on pourra parler plus tard de la Californie, qui doit se comprendre dans cette évolution historique mexicaine, c'est-à-dire une opposition à une évolution vers du centralisme et une défense du système fédéral. Ou une certaine interprétation du système fédéral, mais aussi évidemment comme un effort de la part des Texans d'origine états-unienne, planteurs, défenseurs de l'esclavage, pour arriver à défendre des prérogatives au sein du territoire du Coahuila et Texas. Et donc, c'est dans ces conditions qu'ils vont déclarer leur indépendance suite à un certain nombre de tensions. Et en fait, le gouvernement mexicain, à la tête duquel on a donc ce général Santa Anna, qui va déclencher une campagne militaire contre le Texas et donc remporter une première victoire au siège de El Alamo, dont on vient d'écouter l'extrait, et puis ensuite une défaite cuisante à San Jacinto, où Santana va être capturé, fait prisonnier, et forcé à la capitulation et à accepter l'indépendance du Texas. Très rapidement, les Texans envoient une délégation à Washington pour demander l'intégration de l'État du Texas indépendant aux États-Unis comme État de plein exercice. Mais on a un moment de fort débat, de fort tension, justement sur la question de l'expansion de l'esclavage. Et donc, le Texas ne va pas être intégré à ce moment-là. Il va rester une république indépendante jusqu'en 1846.
Quand le Texas devient un État des États-Unis, Augustin Imbrant, c'est bien ce processus, parce que nous réfléchissons hein, bien sûr avec des dates, des ruptures, mais on l'entend bien pour le Texas, nous évoluons sur un temps un peu plus long, hein, 1836, c'est cette volonté d'indépendance par rapport à l'État du Mexique, oui. Et après, l'idée de rejoindre les États-Unis, c'est plus d'une dizaine d'années après.
Oui, exactement. Alors, je dirais... On peut encore remonter dans le temps, dans le sens où cette idée, en revanche pour les États-Unis, d'annexer la région du Texas, n'est pas nouvelle. Au moment du traité de Adams-Onis, donc en 1819, Henry Clay, par exemple, qui est le speaker de la Chambre des représentants, avait l'intention d'ajouter une négociation pour annexer le Texas. Et le Sénat lui refuse. Parce qu'on verra que la question de l'expansion aussi, elle pose beaucoup de débats au sein des représentants aux États-Unis. Mais en l'occurrence, oui, il y a un temps long... entre 1836 et 1845, une république indépendante qui va rapidement demander l'annexion et du moins demander de devenir un État au sein de l'Union, donc dans le processus, dans le cadre du processus dont je parlais tout à l'heure, ce qui paraît d'une certaine manière assez logique puisque c'est une population... C'est une population qui est à majorité anglo-américaine, avec des esclaves, un système de plantation, et qui vient finalement apporter sa culture spécifique au grand développement de l'empire sudiste, de l'empire du Sud, dans la continuité du Deep South. Donc, il y a une certaine logique, notamment économique, à intégrer les États-Unis en tant qu'État. Et puis, pour les États-Unis, et notamment pour les différentes présidences particulièrement expansionnistes, et notamment la présidence de James Polk à l'époque, qui a une croyance, on peut dire viscérale dans la destinée manifeste des États-Unis. Pour beaucoup d'Américains, et notamment pour les personnes au pouvoir à ce moment-là, l'annexion est une évidence. C'est dans la suite logique, dans la continuité, encore une fois, de ce destin providentiel et inévitable de l'avancée des États-Unis. C'est une logique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je relisais récemment, évidemment, la démocratie en Amérique de Tocqueville, et... il y a une note de bas de page dans un des premiers chapitres où il explique justement cette évidence de l'annexion en expliquant, mais oui, les Américains, de toute façon, la population américaine est vouée à s'imposer sur des territoires parce qu'ils ont la culture, parce qu'ils ont la civilisation, parce que c'est un mouvement providentiel et inévitable. Donc, ces Texans sont de fait américains. Et ça, il l'explique déjà dans les années 1830. Donc, c'est une logique finalement de long terme qui est actée en 1845-46 et qui va d'ailleurs, en réalité, mettre très en colère évidemment l'État fédéral mexicain. Et ce qui va être une des causes d'ailleurs de la guerre du Mexique, la guerre entre les États-Unis et le Mexique en 1846.
La possession du port de San Francisco, de celui de Monterrey et de ceux des îles Sandwich serait, en effet, d'un avantage immense dans l'intérêt de la pêche de la baleine. Ces ports sont admirablement placés pour servir de relâche aux navires baleiniers qui les visitent fréquemment, pour y prendre les rafraîchissements et le repos dont ils ont besoin dans le cours de leur longue et pénible croisière de pêche. Ces bâtiments y viennent, pour ainsi dire, s'en sortir du théâtre de leurs opérations. Toutefois, il est à remarquer que les Californiens ne semblent éprouver aucune sympathie prononcée pour les Américains du Nord. Et que si ces derniers sont aujourd'hui en possession de presque tout le commerce de cette côte, cela tient beaucoup plus à ce qu'ils se sont présentés les premiers et à peu près les seuls, qu'à une disposition particulière des habitants envers eux.
Raphaël Laloum, dans le cours de l'histoire, qui lisait cet extrait du voyage autour du monde sur la frégate La Vénus pendant les années 1836-1839. C'est Abel du Petit Thouars qui, ici, nous donne des éléments d'explication qui permettent de saisir la portée de cette guerre de 1846-1848, au moment où les États-Unis regardent de plus en plus vers le Texas, ou le Texas vers les États-Unis, et que le Mexique n'aime pas ça. Emmanuel Pérez Tisserand, la Californie aussi, fait partie de toute cette réflexion. Les enjeux sont multiples. Ce n'est pas simplement pouvoir dire que le territoire a été agrandi. Il y a cette vision presque spirituel ou complètement porté par cette idée de destinée. Et puis, il y a des raisons purement économiques aussi.
Oui, alors on est dans le cas de la Californie, dans un cas un petit peu différent de celui du Texas, qui est effectivement pas strictement celui d'une continuité territoriale, même si on vient de le dire, elle est projetée, imaginée avec et portée par cette idée de la destinée manifeste sur laquelle je reviendrai. Mais effectivement, pour le cas de la Californie, le gouvernement des États-Unis, puis un certain nombre de porteurs de cette expansion vers le Pacifique, c'est lié aux intérêts à la fois commerciaux et baleiniers, avec une présence de plus en plus importante des États-Unis dans cet océan, qu'ils ont effectivement très vite, les États-Unis, profité de l'indépendance et de la libéralisation du commerce, et comme les Britanniques, ils se sont rendus très tôt sur cette côte. En l'occurrence, donc il y a les baleiniers qui font relâche dans les ports californiens, mais il y a aussi tout un commerce d'exportation de cuir et de suif, c'est-à-dire des produits animaux issus de l'élevage bovin qui se développe énormément en Californie à cette époque-là. Et une des choses qui est importante pour eux, sur laquelle ils vivent, c'est la baie de San Francisco, qui est donc une baie immense et qui présente tous les atouts, toutes les belles caractéristiques pour faire un port. On regarde aussi le port de Monterrey un peu plus au sud, mais donc dès 1835, en réalité, quand il commence à y avoir un peu des négociations diplomatiques où les États-Unis tentent d'essayer d'obtenir le Texas, ils ajoutent aussi une clause sur la Californie. Donc c'est un endroit qui entre sur les cartes à ce moment-là, par rapport au commerce dans le Pacifique, avec aussi cette fréquentation accrue des navires baleiniers et des navires de commerce. On a aussi de plus en plus de témoignages. Donc ici, on avait un témoignage français, et on voit bien comment aussi en bon français qui parle à son gouvernement, il a un point de vue sur ce qui se passe du point de vue des États-Unis. C'est eux qui sont arrivés les premiers. Sous-entendu, si nous on avait été plus présents, peut-être qu'on aurait pu espérer avoir quelque chose en Californie. Mais en tout cas, ces commerçants, ces navigateurs donnent une image de la Californie à la fois comme un territoire qui est extrêmement désirable, avec un climat tempéré, des régions qui sont propres à l'agriculture, donc à la fois ce portrait très laudateur, hein, c'est déjà le rêve californien avant l'heure, et à la fois une dépréciation du gouvernement mexicain qui y règne, avec le règne de l'arbitraire, des taxes trop importantes, etc. Et donc, on commence à voir ce discours, effectivement, qui apparaît de, en fait, qu'est-ce que ce pays pourrait donner s'il était sous domination d'un autre pays qui pourrait le développer, sous-entendu ou pas sous-entendu, les États-Unis. Et donc ça, en parallèle effectivement de ce discours de destinée manifeste, qui est un discours en fait qui a été formulé sous cette expression-là en 1845, mais comme on l'a vu déjà, qui est d'assez longue durée, cette idée qu'il y a une sorte d'élection du peuple américain pour étendre son empire de la liberté, selon l'expression de Jefferson. Et dans ces années-là, on a développement d'un discours aussi très racialisé par rapport aux populations qui occupent ces territoires-là, donc que ce soit les populations autochtones, mais aussi les populations mexicaine, d'origine hispanique. Et c'est aussi un des moments de développement de ce discours des latins contre les anglo-saxons, qui est donc une construction de l'idée de race opposée avec des caractéristiques différentes, qui va encore plus s'affirmer à la fin du 19e siècle, mais qu'on trouve déjà dans les discours et de manière assez violente à cette époque-là, à l'endroit des populations mexicaines qui seraient paresseuses, pas capables capable d'un gouvernement autonome par rapport aux anglo-saxons, etc. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avertis toujours d'éviter d'utiliser ce terme anglo-saxon qui est vraiment très marqué dans cette idéologie de la destinée manifeste et ensuite du développement des États-Unis par la suite.
Parce qu'ici se construit aussi l'image de l'autre, en l'occurrence des Mexicains. Augustin Abrant, cette destinée manifeste, c'est vrai que l'expression est très belle, mais elle est porteuse de tellement d'imaginaires, de constructions, et avec des conséquences réelles. Hein. C'est cette lecture un peu raciale, que vient de le dire Emmanuel Perez-Tisserand, et puis surtout, ça appelle les États-Unis à avancer, mais avancer jusqu'où d'ailleurs? Parce que il y a des limites données à ce moment-là. Ça y est, le Texas est là, on pourrait descendre encore.
Oui, alors vous avez raison. Déjà peut-être pour revenir sur le contexte et le concept de la destinée manifeste. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est quelque chose qui se développe justement au moment de l'annexion du Texas et qui est aussi très largement incité par un journaliste démocrate qui s'appelle John O'Sullivan, qui écrit un article qui fait date, qui s'appelle The Great Nation of Futurity, qui voit l'Amérique comme une grande nation de la futurité, justement du fait de ces institutions démocratiques et républicaines et civilisées. Dans la notion de destinée manifeste, ce qui est intéressant, c'est évidemment la notion de destinée providentielle, mais de manifeste aussi, qui nous rappelle en réalité les fondements des États-Unis. Cette idée, comme dans la Déclaration d'indépendance, d'évidence, nous tenons pour évident que self-evident, qui est repris, il y a cette idée d'évidence et de phénomène naturel qui est important. Donc les États-Unis les expansionnistes, parce qu'encore une fois, il y a de l'opposition qui existe, les expansionnistes sont persuadés finalement que l'Amérique, les États-Unis ont un destin providentiel à apporter, encore une fois, la civilisation, le savoir-faire, la démocratie, l'appropriation civilisée des terres, et qu'ils sont de fait voués à s'étendre, et comme vous le dites, jusqu'où, on ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas de définition en réalité à l'arrêt. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on avance un petit peu dans le temps, mais au moment de la fin de la guerre de 1846-1848, il est envisagé d'annexer l'intégralité du Mexique. Notamment parce que justement plus bas, autour de Mexico City, il y a des terres davantage arables, tandis que la région de ce qui correspond, qui est la région qui est finalement annexée, qui correspond à l'ancienne Frontera Norte espagnole, c'est une région beaucoup désertique, en l'occurrence. On pense au Nouveau-Mexique, au sud de l'Arizona aujourd'hui. Et qu'en réalité, beaucoup de gens vont s'y opposer pour des raisons techniques et justement aussi pour des questions raciales, parce qu'il ne faut pas oublier que la providence américaine et cette civilisation états-unienne, elle est avant tout blanche, anglo-saxonne, protestante. Et que de fait, les Mexicains sont d'abord un peuple métissé, avec les populations autochtones. Et il y a évidemment des préjugés raciaux qui sont assez importants, notamment depuis les années 1820, où l'idéologie états-unienne s'est structurée autour d'une république blanche, aidée par les outils du racisme pseudo-scientifique, qui va envisager une échelle des races en fonction de réalités pseudo-biologiques. Et donc, l'homme blanc... en l'occurrence, voilà l'image qu'on a. On parlait de John Wayne tout à l'heure. C'est vrai que l'image du cow-boy puissant, civilisé en jean, va être en mesure d'être racialement supérieur à ces populations. Et d'ailleurs, c'est intéressant, si je peux me permettre simplement rapidement, parce que à l'issue de l'annexion de ces régions, à l'issue de la guerre toutes les régions du nord du Mexique. Les territoires du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, ce qui n'est pas le cas de la Californie, qui va devenir un État, eux, ils vont rester des territoires, justement. Parce qu'on considère qu'il n'y a sans doute pas assez de blancs pour pouvoir s'approprier suffisamment le territoire de manière suffisamment, entre guillemets, civilisée.
En parlant de cow-boys, j'en profite pour envoyer l'émission Il était une fois dans l'Ouest, les cow-boys noirs, une émission du cours de l'histoire écoutée sur franceculture.fr et l'appli Radio France, sachant que cette destinée manifeste est regardée avec un œil critique par Abraham Lincoln.
Nous avons tous entendu parler du mouvement Young America. Il possède une grande partie du monde par son droit de le posséder et tout le reste par son droit de le vouloir et son intention de l'avoir. C'est un grand ami de l'humanité et son désir de terre n'est pas égoïste, mais simplement une impulsion à étendre le domaine de la liberté. Il est très soucieux de lutter pour la libération des nations réduites en esclavage et des colonies, à condition toujours qu'elles aient des terres. Quant à ceux qui n'ont pas de terre et qui seraient heureux de recevoir de l'aide, quelle que soit sa provenance, il estime qu'ils peuvent se permettre d'attendre quelques centaines d'années supplémentaires. En matière de savoir, il est particulièrement riche. Il sait tout ce qu'il est possible de savoir. Il a tendance à croire aux attributs spirituels et il est l'inventeur incontesté de la destinée manifeste.
Abraham Lincoln, lu par Thomas Beau en 1858, Emmanuel Pérez-Tisserand. Dans cette histoire-là, nous avons bien sûr la chronologie qui se met en place et de la Floride, la Louisiane, nous avons construit peu à peu une frontière sud, nous avons le Texas ici. Pour la Californie, pour l'Arizona, pour le Nouveau-Mexique, c'est encore plus tard. À partir de quel moment la frontière est-elle fixée entre les États-Unis et le Mexique ?
Alors, comme on vient de le dire, en fait, la Californie, donc elle est très vite peuplée parce que il se trouve qu'on trouve de l'or et qu'on l'annonce en fanfare dès la signature du traité. On trouve de l'or et ensuite c'est annoncé par le président à la fin de l'année. Donc ça fait peupler très rapidement et coloniser très rapidement le territoire de Californie, qui devient un état de plein exercice en 1850. C'est le 31e état et donc ça se fait de manière très rapide et c'est là encore vu comme un signe de l'élection divine. Par contre, pour les territoires situé plus à l'est, donc jusque autour du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, etc. On envoie une commission suite au traité de paix de Guadalupe-Hidalgo de 1848. Et là, en fait, c'est un cauchemar pour tracer cette frontière parce que c'est une zone qui est encore tout à fait occupée et sous souveraineté des populations autochtones locales et notamment les Apaches. C'est donc la campagne de Geronimo qui va finir cette guerre, mais beaucoup plus tardivement. Et donc la commission se rend compte non seulement qu'ils sont attaqués par les Indiens, qu'il n'y a pas assez de fonds pour les nourrir, qu'on est dans un territoire désertique très difficile, enfin dans lequel c'est très difficile de tracer la frontière. Donc en réalité, cette zone frontière, elle va pas tout de suite devenir une barrière comme on la connaît aujourd'hui. En fait, ça va rester un endroit où il y a des circulations, par exemple notamment des animaux, du bétail. C'est un endroit de d'élevage très extensif et on a des échanges. Mais finalement, les échanges à la frontière, ils vont se développer plus tard, notamment sous une période qu'au Mexique qu'on appelle le Porfiria, qui est à la toute fin du 19e siècle, où là, on va avoir le progressif développement d'une économie symbiotique, ou en tout cas, du moins, complémentaire. Et au début du 20e siècle aussi, à la fois des migrations de travail, mais ça, c'est un peu plus tardif, et aussi, l'importance de cette frontière pendant la Révolution mexicaine, au début du 20e siècle. Donc, ça va devenir une base arrière pour la Révolution mexicaine, le sud des États-Unis, et aussi un lieu de refuge par la suite. Donc, c'est vraiment beaucoup plus récent et tardif qu'on a cette logique de contrôle de la frontière. C'est vraiment tout fin du 19e et au cours du 20e siècle.
Avec cette histoire longue pour saisir la frontière d'aujourd'hui qui ne se limite pas à un mur comme certains l'imagineraient, puisqu'une frontière c'est une zone d'échange et c'est surtout le signe d'une très longue histoire. Merci vivement à vous Emmanuel Pérez-Tisserand. Je rappelle à un Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine. Et merci Augustin Abrand d'être venu dans le cours de l'histoire pour cette histoire qui appelle à approfondir encore les choses. C'est sidérant hein, combien tout cela est construit d'images que nous portons. Donc merci vivement à vous deux d'être venus dans le cours de l'histoire. Prochain épisode, États-Unis, Amérique latine, banané pour mieux régner, Tejo.
Work all night and a drink a rum. Deo, Deo,
daylight come and me one more.
Formidable arrivée à la fonte des hauts dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Thomas Beau à la technique. Ludovic Auger, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy, Luce Mourant et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.